Bonjour Monseigneur Alain.
Bonjour.
Merci Isabelle. De nous accueillir dans ce diocèse de Montauban aujourd'hui. Vous êtes membre de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France et à ce titre, vous avez participé à des vidéos intitulées « Ouvrir la Bible ». Quel a été l'objectif de ce projet ?
Effectivement, il y a quelques temps maintenant, 2 ans je crois, à la suite, vous savez, de ce rapport qu'on appelle le rapport de la SIAZ, donc il y a le rapport et les préconisations qui ont été faites par un certain nombre de groupes de réflexion, de travail, qui se sont emparés d'un certain nombre de sujets pour essayer d'avancer sur un certain nombre de questions. Et parmi elles, parmi tous ces travaux, parmi toutes ces suggestions, propositions, il y avait une question qui était importante, on le sent bien, qui peut y avoir, et il y a eu. Une manipulation parfois de l'écriture ou de quelques passages de l'écriture à des fins perverses.
De manipulation.
De manipulation.
Oui. Est-ce que vous auriez des exemples d'une récupération de la parole de Dieu ?
Oui, alors déjà dans la parole de Dieu, on voit bien que même dans la Bible, il y a aussi cette, par exemple, les tentations de Jésus. On voit bien que Satan, le démon, utilise l'écriture pour détourner Jésus.
C'est vrai.
Voilà.
Mmh.
Et déjà, même dans la Genèse, le serpent qui dit « Dieu vous a dit cela », mais en fait, bon. Voilà. Oui, on peut par exemple isoler un verset sur l'amour, sur l'amitié, et puis le détourner de son sens pour profiter d'une situation, pour abuser d'une personne. Bon. Voilà, ce sont des faits. Alors, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais ça existait. On sait bien que des manipulations à des fins, comme je l'ai dit, perverses et tout à fait néfastes, ont pu survenir. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement perverti. L'usage de l'écriture n'est pas fait pour asservir les personnes, au contraire, pour les libérer, puisque si Dieu nous a laissé sa parole, Dieu nous laisse sa parole, c'est une parole de libération et non pas d'asservissement. Mmh. Donc déjà, vous voyez, il ne faut pas utiliser la Bible et on peut l'utiliser à des fins complètement dévoyées. Voilà, donc ça fait partie aussi de ces mécanismes de perversion et l'écriture, c'est encore une double blessure puisque on fait du mal aux personnes, mais on leur fait du mal en utilisant la parole de Dieu qui est faite pour le bien.
Mmh. Et donc là, on est vraiment dans le mensonge aussi.
Dans le
mensonge,
ouais. Et dans, on traverse. On, voilà, donc.
Ce projet de vidéo Ouvrir la Bible a pour objectif donc de prévenir les risques d'instrumentalisation des Écritures en donnant au grand public les bases d'une lecture juste de la Bible. J'aimerais bien que vous nous disiez, Monseigneur, ce que vous entendez par lecture juste.
Juste, voilà. Et comme, effectivement, alors si on revient à la genèse de ce travail, il a été, bien sûr, c'était la commande qui a été faite à la commission doctrinale de voir comment on peut, à juste titre, parer à tout cela, à ces mauvaises utilisations, mais c'était bien sûr aussi l'occasion de redire de manière positive ce qu'est la Bible, comment lire l'Écriture, comment l'interpréter, puisqu'on peut aussi avoir des interprétations justement dévoyées. On calque, si vous voulez, à ce moment-là, l'Écriture devient prétexte, c'est-à-dire on a telle idée, voire telle idéologie, et on utilise un verset de l'Écriture
pour
se servir. Or, c'est le mouvement inverse. C'est l'Écriture qui est première et c'est à partir d'elle, et c'est toute l'histoire, c'est toute la révélation, la théologie qui puise dans cette source incomparable pour déployer ensuite tout le sens dans l'histoire et dans la vie. Donc ce n'est pas... c'est la Bible, elle n'est pas... Nous ne nous servons pas de la Bible, mais nous sommes plutôt serviteurs de la parole. Et donc, une bonne théologie, une bonne spiritualité ne part pas de mon sentiment, et je vais chercher dans la Bible ce qui correspond à mon sentiment ou à mon opinion. C'est l'inverse, je reçois l'Écriture. L'Écriture, nous la recevons et nous l'interprétons. Et vous voyez, donc il faut aussi se mettre dans ce bon mouvement, et nous l'interprétons. Alors, là après, c'est toute la question de l'exégèse et toute la manière d'étudier le texte, donc l'Écriture, à travers toutes les études que l'on fait, dans aussi la foi de l'Église. C'est toujours aussi, c'est pas mon opinion personnelle, c'est ce que dit l'Église et comment j'entre aussi dans, dans toute cette tradition, avec un T majuscule, pour comprendre pour aujourd'hui ce que Dieu veut me dire à travers l'écriture qui devient parole.
Et, voilà. Et c'est pour ça que la Bible est si importante, c'est qu'elle n'est pas seulement un livre.
Non, alors, oui, vous avez tout à fait raison, c'est un livre, c'est matériellement, si je peux dire, la Bible, ce sont les paroles qui sont écrites, consignées par écrit, c'est toute la révélation hein, depuis des siècles et des siècles. mais nous ne sommes pas ce qu'on appelle une religion du livre, nous sommes d'abord une religion de la parole. Dieu parle et cette parole, ces paroles ont été consignées par écrit, alors par toute la tradition vétérotestamentaire, puis jusqu'à l'Évangile, les Actes des Apôtres, les écrits de saint Paul. Et donc, effectivement, Dieu commence par parler. Hein, sa parole est créatrice. Et pour penser à cet épisode bien connu du buisson ardent, hein, Dieu dit « Je suis qui je suis ». Il ne dit pas « Je te donne un texte ».
Oui, c'est vrai.
Il parle, voilà. Et ensuite, bien sûr, on met par écrit, dans toute la tradition d'Israël, longuement mûri, réfléchi, prié, cette révélation, le mot est important, de ce Dieu qui se révèle comme le Dieu unique, hein, et qui donne aussi cette... et qui vient libérer son peuple d'Israël. Et celui qui, pour nous, est la parole, c'est Jésus, hein, le Verbe incarné, voilà, qui est la manifestation dans sa plénitude de la parole de Dieu, qui nous laisse aussi, bien sûr, ces paroles qui ont été mises par écrit, par les évangélistes.
Et pourquoi est-ce si important de lire la Bible ?
Ben justement, pour connaître Dieu.
Tout simplement.
Tout simplement, tout si simplement. On peut dire comme ça.
Oui, voilà.
C'est pas si connaître Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il a voulu dans l'histoire, ce qu'il veut encore pour aujourd'hui.
Ce qu'il a à nous dire.
Et puis pour vivre aussi de cette expérience spirituelle qui a formé le peuple d'Israël, qui forme l'Église à travers tous les écrits du Nouveau Testament. Donc c'est une source et qui nous dit aussi que la foi, nous la recevons de tout cela. Et donc la foi est toujours un acte personnel, bien sûr, mais qui est le Dieu auquel nous croyons ? Eh bien ce Dieu s'est manifesté, révélé, s'est fait connaître. Voilà. Et donc la Bible vient nourrir notre intelligence, notre connaissance du mystère de Dieu.
Alors, si quelqu'un voulait se familiariser avec la Bible, quels conseils lui donneriez-vous, Monseigneur ?
Oui, alors, effectivement, la Bible, ce sont des livres.
Oui.
Il ne faut pas oublier. Et puis, c'est écrit dans des époques différentes, avec des genres littéraires différents. Voilà. On peut s'y perdre, hein, parce qu'il y a parfois un décalage entre le langage et notre façon de penser, de voir les choses. Donc, ça peut être parfois compliqué de s'y retrouver. Hein. Pour ça, il est bon de se faire éclairer, de se faire accompagner. Alors pour cela, il y a des guides de lecture. On peut commencer par tel ou tel livre, on peut commencer par l'Évangile, par les Évangiles, qui sont déjà...
plus accessibles déjà.
Peut-être plus accessibles, ou par un livre de... Mais je crois que, quelle que soit la limite, la porte d'entrée, parce qu'elles peuvent être multiples, il n'y a pas une seule porte d'entrée, il est bon de se faire accompagner dans cette lecture.
Ne pas rester seul. Hein,
voilà. On peut bien sûr lire la Bible tout seul et la méditer chez soi, mais pour un débutant, parfois il est bon d'être accompagné, il est même nécessaire. Alors pour cela, il y a dans beaucoup de paroisses des groupes bibliques ou des groupes de lecture de l'Écriture qui peuvent aider aussi et qui sont là pour aider à entrer dans ce monde qui est vaste un peu. On disait parfois la Bible c'est comme une forêt avec de multiples arbres et on peut s'y perdre si on n'a pas de guide.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Oui. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, on a ce très très bel épisode, c'est au chapitre 8, sur la route qui va de Jérusalem, où la rencontre de Philippe et de l'Éthiopien. Les auditeurs pourront lire ce passage. À un moment, donc, Philippe rejoint le char où il y a cet Éthiopien qui lit à haute voix, puisque à l'époque, c'est ainsi qu'on faisait. Hein, on lisait pas, la lecture n'était pas mentale, elle était exprimée.
Elle était orale.
Et orale, donc il lit le prophète Isaïe, Philippe le rejoint, il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'autre de lui dire « Comment comprendrai-je si personne ne me l'explique ?» Voilà. Et donc, il faut des catéchètes qui ont pour mission, justement, de faire retentir, d'actualiser la parole, cette écriture qui devient parole pour nous, parole vivante aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'étudier des textes.
Oui, bien sûr, ce n'est pas une fiche de lecture qu'il faut réaliser.
Ce n'est pas un exercice purement intellectuel. Ça a sa place, pour bien comprendre ce qui est écrit, comment ça a été écrit, etc., comment interpréter. Les groupes de Bible ne sont pas, je dirais, des cercles savants où on fait mousser un petit peu, justement,
son savoir. Eh oui, bien sûr.
C'est sans doute nécessaire, mais il faut que ça nourrisse aussi la vie chrétienne et la vie de foi aujourd'hui. C'est pour ça que l'Écriture, elle devient une parole vivante.
Il y a cette Lectio Divina qui est d'étudier la Bible et de s'en imprégner.
Oui, alors ça, ça s'inscrit dans la longue tradition de l'Église qui est née dans les premiers siècles de l'Église. On a un premier grand exégète qui s'appelle Origène, et les pères de l'Église, et qui ont comme ça permis d'ouvrir l'Écriture et de donner des clés d'interprétation et de lecture. Et puis dans la tradition monastique, il y a la Lectio Divina, et qui aujourd'hui, fort heureusement, se répand un petit peu partout. Alors commencer la lectio, ça veut dire une lecture divine, parfois on appelle lecture spirituelle, c'est-à-dire il y a des étapes, il y a une méthode là pour le coup, et il est important de la suivre. Alors ça peut se pratiquer seul, bien sûr, ou en groupe, parfois c'est aussi intéressant de le faire à quelques-uns. Comment ça se passe? C'est très simple, il y a des temps. Le premier temps, c'est on lit ou on écoute. Enfin, quelqu'un lit le texte et d'autres écoutent. Voilà. Parce que c'est important, justement, l'écoute. Quand les gens écoutent Israël, c'est le premier commandement.
Oui.
Voilà. Et donc, on écoute, on accueille, on entend. Voilà. Et puis ensuite, on peut relire ou lire ce qui est écrit, ce qui est matériellement là, fixé à travers des mots, des phrases, une construction. Des mots qui ont été choisis. Alors il y a aussi, toute une construction littéraire à laquelle on peut s'attacher, puis voir les expressions qui reviennent, etc. Chacun peut à ce moment-là relever ce qui le marque, ce qu'il regarde. Un peu comme quand on regarde un paysage ou un tableau. Voilà, si vous voulez, c'est.
On fait part de ces impressions.
Je vois telle chose, etc. Bon. Ça, c'est une première étape qu'on appelle la lecture. On regarde.
Ça, c'est la première étape.
Deuxième étape. Alors, ça se fait dans toute une démarche aussi spirituelle. C'est-à-dire, il faut prendre le temps. Et si on le fait en groupe, il faut commencer par prier. Puis ensuite, les étapes se vivent aussi dans le silence. Mais la deuxième étape, c'est en quoi, justement, cette écriture devient parole pour moi aujourd'hui. En quoi le texte que je lis, l'histoire qui m'est contée, nourrit ma foi, voilà. Comment ça me fortifie, ça me conforte, ou peut-être ça me déplace.
Oui, ça me dérange.
Ou ça me déplace, parce que c'est bien aussi. On compte que la parole de Dieu, comme dit,
bouscule.
C'est un glaive qui vient aussi percer et qui vient peut-être me chercher là où je ne voudrais pas être trouvé. Voilà, donc c'est fait pour convertir aussi. Donc comment ça me nourrit, ça me construit, ça m'édifie, ça m'interroge, ça me déplace, etc. Voilà. Mais du coup, je le reçois aussi comme, non plus simplement comme un texte, mais comme une parole vivante.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc là, c'est l'occasion aussi, si c'est fait en groupe, de se le partager.
Oui, etc. De confronter.
Confronter. Oui. Et puis parfois, des choses que j'ai croyais savoir, parce qu'il y a toujours... je vois que finalement, ce n'était pas tout à fait ça qui est écrit.
Donc, oui, ça permet de corriger aussi.
Corriger aussi des choses, des impressions. Parce que parfois, les textes d'évangile, vous savez, quand on est un peu familier, on se dit « mais je connais ».
Et on ne fait plus attention.
Je connais, etc. Et on ne fait plus attention. Alors que des fois, un mot, une expression, tout à coup, me dit « mais oui ». Et puis la parole de Dieu est vivante. Donc, elle parle à notre cœur. Et puis, j'ai entendu, j'ai reçu, j'ai accueilli.
J'ai partagé.
Et je réponds.
Et je réponds.
Et donc c'est un dialogue. Dieu qui me parle et moi je lui réponds. Alors je lui réponds comment? Eh bien, par la prière, sans une action de grâce, ou une prière de demande, etc. etc.
Voilà. Donc là, c'est un temps de prière silencieuse.
Voilà, ou partager. On peut aussi se le partager. Et puis il y a un quatrième temps aussi qu'il ne faut jamais oublier, c'est en quoi ce que je viens de lire, d'étudier, de méditer, de prier, de partager, à quoi ça m'appelle ?
Ah oui, en quoi cette parole me met en chemin ?
Me met en chemin, et peut-être pour telle ou telle action, alors personnelle ou commune. Hein, on peut aussi se dire, ben voilà, nous avons entendu ça, et je dirais, mais qu'est-ce que ça va produire dans notre vie ? Vous voyez, c'est aussi un chemin qui s'ouvre, et quelque chose de dynamique.
Oui, c'est ça. Donc,
Lectio Divina, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas un cercle d'études où on va se... C'est bien d'étudier parce que le texte, il a été construit. Et puis, parfois, on ne comprend pas très bien tel verset. Donc, il faut aller chercher un autre verset de l'Écriture. Vous savez, il y a cet adage, seule l'Écriture explique l'Écriture. C'est-à-dire que quelque chose que je ne comprends pas là... Alors, les Bibles, aujourd'hui, elles sont bien...
Oui, elles font des liens avec
des
textes entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
Il y a des notes de bas de page où il y a des références, etc. Donc, je vais voir un autre passage de l'Écriture qui peut contribuer à éclaircir celui que je lis. Voilà, donc c'est une grande navigation.
Hein. Dynamique en tout cas.
Et c'est dynamique. Ouais. Et c'est fait pour, justement, nourrir, fortifier la foi. Donc, c'est vraiment très beau. Et moi, j'engage beaucoup les chrétiens. Et je sais que ça se pratique dans beaucoup de paroisses ou de groupes aujourd'hui. Et c'est fort heureux parce que l'Écriture, elle est donnée à tous ceux qui veulent... je dirais, la recevoir.
Oui, alors pourquoi se priver d'un tel cadeau ?
Voilà.
Merci beaucoup, Monseigneur Alain
Guilec. Je vous en prie, et bonne lecture alors à tous.
Voilà, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre pour une nouvelle carte blanche.
Merci.